Effectivement, en fait, une entreprise d'économie sociale, son, en fait, son pourcentage de réussite et de pérennité, c'est à 83 % versus 43 % pour les entreprises privées à but lucratif. Pourquoi? C'est beaucoup grâce à la question de la collaboration puis du collectif. C'est-à-dire, l'autre élément, c'est que tu réponds à un réel besoin. En fait, c'est la question que tu disais tantôt par rapport à l'impact social. Si tu réponds à un réel besoin, tes chances de survie sont effectivement beaucoup plus grandes.
C'est tout un honneur pour moi de recevoir Louise Auder du Pôle régional d'économie sociale de Laval pour ce 7e épisode. Louise est une femme engagée et impliquée dans la vie citoyenne et collective. Elle représente pour moi l'image de l'économie sociale pour laquelle elle défend les intérêts. Louise répond à mes questions. Allô Louise, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci Christian.
Alors, je suis super content de t'accueillir au travers de ce podcast de Entreprendre Ensemble, parce que pour moi, tu représentes justement le fait de travailler ensemble, de collaborer au travers de ton parcours, de ton expérience et de ta posture aujourd'hui en tant que directrice générale du Pôle régional d'économie sociale de Laval. Alors, j'aimerais tout d'abord, avant de commencer, que tu t'introduises qui tu es et ce que tu fais.
Mais en fait, je m'appelle Louise Auder. Je travaille depuis quelques années ici à Laval pour le développement du pôle régional d'économie sociale, comme tu l'as dit, mais aussi dans une perspective de développer ce qu'on appelle un laboratoire d'innovation sociale à Laval. Lorsqu'on parle de Laval, on n'associe pas nécessairement à l'innovation sociale, mais on est surpris actuellement de voir combien de personnes sont vraiment assoiffées, en fait, de travailler collaborativement et de travailler ensemble à créer des projets à impact social à Laval. Alors, c'est très excitant de voir qu'on peut vraiment tranquillement développer ce qu'on appelle un laboratoire d'innovation sociale.
Tu es extrêmement active, vous faites énormément de projets, justement. Tout d'abord, est-ce que tu veux nous expliquer un peu quel est le rôle, finalement, du Pôle régional d'économie sociale?
En fait, il y a le rôle officiel, qu'on peut dire, qui est le rôle, on est financé par, principalement, en fait, par le ministère de l'Économie, Sciences et Innovation du Québec et par la Ville de Laval. L'objectif de notre financement est de faire en sorte qu'on puisse soutenir l'émergence et le développement des entreprises d'économie sociale. Les entreprises d'économie sociale sont des entreprises qui ont une activité marchande. Ils vendent des biens ou des services. Mm-hmm. La différence avec les activités d'entreprises régulières, c'est que les profits sont réinvestis dans l'organisation. Les gens ont des salaires décents et tout, mais dans le fond, au lieu de prendre les profits, les redistribuer à des actionnaires, ils sont réinvestis dans le travail de l'organisation. Alors, l'économie sociale, c'est assez méconnu dans le public en général, mais on peut penser, par exemple, le grand exemple, c'est la Caisse Desjardins, qui a commencé parce que les Québécois n'avaient pas accès au financement et aux prêts, et ils se sont dotés ensemble d'une coopérative pour subvenir à leurs besoins de financiers. Et depuis ce temps-là, c'est une entreprise d'économie sociale dont les profits sont réinvestis dans la mission et aux membres.
Mm-hmm. Et donc, selon toi, en fait, quelle est l'importance de la présence des entreprises d'économie sociale dans l'écosystème?
En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que si on pense à toutes sortes d'entreprises, moi, je trouve qu'au Québec, on est assez avancé au niveau de l'économie sociale. En fait, on a beaucoup d'entreprises d'économie sociale. On a un mouvement d'économie sociale qui est assez fort. Mais à mon sens, on n'est pas encore assez fort. C'est-à-dire qu'on pourrait commencer à rêver, imaginer, par exemple, une entreprise pharmaceutique internationale qui serait, au lieu d'être orientée vers les profits aux actionnaires, serait orientée vers des profits qui sont retournés à la mission de la recherche, d'offrir des médicaments à un prix abordable pour les populations qui sont plus appauvries, qui font de la recherche sur les maladies, par exemple, orphelines. Alors, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de limite à l'économie sociale. C'est-à-dire que c'est un concept de dire comment on peut restreindre les écarts exagérés du capitalisme, quand même faire une activité marchande qui est comme de vente de biens et services, mais dans un esprit un peu plus équilibré, je dirais.
Ce que je comprends, en fait, c'est aussi qu'on s'en va vers des entreprises à grande échelle, finalement, qui ont plus d'autonomie et qui se concentrent réellement sur le besoin de la communauté plutôt que sur le besoin plus financier ou capitaliste.
Effectivement, en fait, les entreprises d'économie sociale, dans le mot social, dit qui sont plus souvent concentrées sur le besoin social qui anime leur entreprise. Donc, ça peut être, par exemple, d'offrir des repas pour les gens qui sont, par exemple, à domicile, les popotes roulantes, comme on dit. Mais il y a toutes sortes d'options, toutes sortes de types d'entreprises. Ça peut être au niveau culturel, des entreprises qui sont intéressées par la médiation culturelle, par exemple. Donc, il n'y a pas de limite. Il y a des garages, par exemple, aux États-Unis. Il y a un garage super intéressant. C'est un garage qui vise à réparer des voitures pour des gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler dans les fermes et qui n'ont pas beaucoup de sous. Alors, c'est un garage qui vend les services d'entretien mécanique, mais qui est sans but lucratif, donc qui bénéficie souvent de dons de véhicules et tout. Mmh. Fait que c'est une logique qui est un peu différente. C'est-à-dire, c'est vraiment la logique de... Oui, on vend un bien, un service qui répond à un besoin. Au lieu d'être, de créer un besoin, comme plusieurs entreprises font, mm-hmm. on répond à des réels besoins. Puis on le fait d'une façon où les profits sont réinvestis, donc qui ne crée pas d'extrêmes de richesse, des extrémités de richesse que je trouve des fois démesurées.
Mm-hmm. Et est-ce que dans l'entreprise d'économie sociale, on a une tendance à rechercher un peu plus l'impact social? Et puis, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur c'est quoi l'impact social?
En fait, c'est drôle parce que l'impact social, c'est un mot qui commence à être un peu galvaudé. On pourrait dire que l'impact social de n'importe quelle entreprise là, je pense que l'impact social, quand on y fait référence par rapport au laboratoire d'innovation sociale ici à Laval, en fait, ce qu'on vise, c'est vraiment répondre à un besoin réel que la population a exprimé, qui est difficile à répondre pour une entreprise qui a simplement le profit en tête. Mm-hmm. Par exemple, quand on regarde des services de soutien à domicile, par exemple, en fait, pour les personnes qui sont âgées, on pourrait décider qu'on a des services à but lucratif qui font ce service-là, mais qui sont motivés par la restriction des coûts au maximum. Donc, le service est beaucoup moins personnalisé, beaucoup moins professionnel, je dirais, et même beaucoup moins à l'attention du client. Lorsque ta mission, c'est vraiment d'aider les gens dans leur maison à continuer à vivre à domicile, si c'est ça ta mission sociale, il est clair que le type de service que tu vas offrir va être beaucoup plus orienté vers l'impact social de ton intervention.
Ensemble, valorisons de nouvelles pratiques de travail, de collaboration, afin de faire émerger des projets porteurs de succès tout en ayant un impact social et environnemental. Ce podcast vous propose des rencontres d'entrepreneurs de cœur qui vous offrent des astuces pour vous permettre de développer votre projet. Est-ce qu'il y a des entreprises d'économie sociale qui ne se savent pas économie sociale?
Et c'est impressionnant, c'est une bonne question parce que c'est un peu mon dada actuellement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont des entreprises d'économie sociale, mais qui ne réalisent pas qu'ils le sont parce qu'ils croient que c'est comme un secteur d'activité, l'économie sociale. L'économie sociale, ce n'est pas un secteur d'activité, c'est une façon de faire. Alors, par exemple, tu peux avoir un théâtre qui a un conseil d'administration, c'est un organisme sans but lucratif, qui va chercher des revenus de billetterie, qui fait la promotion du théâtre d'ici, donc qui est une entreprise qui est gérée démocratiquement, qui retourne ses profits dans la diffusion puis la production culturelle québécoise. C'est une entreprise d'économie sociale, mais je suis certaine qu'il y en a, la majorité ne savent pas qu'ils sont une entreprise d'économie sociale. Mmh. L'économie sociale, au sens de la loi au Québec, ce sont que des entreprises qui ne sont pas contrôlées par l'État, qui sont contrôlées par un conseil d'administration élu démocratiquement, sans but lucratif, et qui retournent les profits, qui n'a pas d'actionnaire comme tel, mais qui retournent les profits dans la mission de l'organisation. Ça peut être une coopérative, ça peut être une OBNL, ça peut être dans le secteur touristique, par exemple, ici, le Cosmodôme, je crois que c'est une entreprise d'économie sociale, il faudrait les rencontrer pour valider, mais Le Zoo de Granby, c'est une entreprise d'économie sociale. Eux, ils le savent maintenant.
Okay.
Mais donc, il y a plusieurs entreprises d'économie sociale qui ne se soupçonnent pas économie sociale.
Alors, admettons, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, puis ils se posent la question de s'auto-évaluer, par exemple, savoir s'ils tendent vers l'économie sociale ou s'ils sont une entreprise d'économie sociale. Ça serait quoi les points clés que tu leur donnerais pour s'identifier?
En fait, si je peux me permettre de faire un exemple que j'utilise souvent, c'est par exemple, on a tendance à penser que l'économie sociale, c'est du communautaire, que ce sont des entreprises qui vivent de subventions. Or, ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs entreprises à but lucratif qui vivent pas mal plus de subventions que les entreprises d'économie sociale. que ce soit dans la question des pétrolières ou autres, ils ont beaucoup, beaucoup de subventions gouvernementales, l'aéronautique et tout. Mais dans le cas de l'économie sociale, en fait, un organisme communautaire qui offre un service, je donne l'exemple d'une clinique de méthadone pour des personnes qui sont toxicomanes. Une clinique de méthadone, c'est un organisme communautaire qui offre des services de méthadone pour les gens qui sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Et mon exemple, c'est de dire, donc ça, c'est un organisme communautaire, ce n'est pas une entreprise d'économie sociale, elle ne vend pas des biens et services. Par contre, avec l'expertise qu'elle développe par rapport à l'intervention auprès des toxicomanes, elle devient de plus en plus experte comme organisation à faire ce type de service-là. Et elle pourrait développer un service de formation de professionnels pour l'intervention avec les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Ce service-là serait une entreprise d'économie sociale parce qu'elle vend des biens et des services à des professionnels. Elle a un revenu qui est issu de ça, qui est un revenu. Puis elle vise dans ce projet-là à avoir une autonomie financière éventuelle. Donc, c'est un peu la différence, en fait. C'est est-ce que j'offre la vente de biens et de services? Même chose au niveau culturel, par exemple. Au niveau culturel, c'est une galerie qui a comme objet de faire la diffusion de la création artistique et qui n'a pas de frais d'entrée, par exemple, à la galerie. Ce n'est pas une entreprise d'économie sociale. C'est une entreprise qui doit, vivre des subventions de l'État en matière de culture et de diffusion culturelle.
Tout à fait, oui.
Mais par contre, un théâtre, lui, qui a des revenus et de ses services, peut être une entreprise d'économie sociale.
Du coup, est-ce qu'on peut voir ça un peu comme une invitation, finalement, auprès des organisations qui n'ont pas de volet marchand, justement, peut-être à se développer un volet marchand?
En fait, j'irais pas jusqu'à là, parce que dans le fond, pour moi, ce qui est très, très, très important, c'est pas un jugement de valeur sur les entreprises qui n'ont pas d'activité marchande. Nous avons besoin, dans notre société, d'organisations qui n'ont pas de volet marchand, que ce soit en culture, en santé, en éducation, par exemple. Je crois que c'est quelque chose auquel on tient mordicus. En fait, on veut pas que ça s'effrite. On veut pas que le financement public s'effrite auprès de ce type d'organisation-là, organismes communautaires ou culturels. Par contre, ce qu'il faut se poser comme question souvent comme entreprise ou comme organisation, c'est de dire, y a-t-il un volet marchand dans lequel je ne sacrifie pas ma mission, mon âme comme organisation? Alors, par exemple, lorsqu'on fait de l'intervention auprès des enfants en difficulté et que l'État nous subventionne parce qu'on va offrir des services à des gens qui sont, par exemple, en protection de la jeunesse ou dans des situations extrêmes. Par exemple, il y a une entreprise ici à Laval qui intervient auprès des familles qui sont divorcées, séparées, pour les familles qui sont plus à risque, je dirais, qui ont moins les moyens. Mais l'expertise qu'ils ont développée pourrait être utile pour les familles qui sont plus fortunées. Alors, comment on pourrait offrir un service parallèle au service gratuit qu'ils offrent comme organisme communautaire, un service parallèle, marchand, pour que ce service-là puisse aussi être disponible aux gens qui ont les moyens?
C'est finalement, les gens peuvent aussi venir te voir pour développer cette vision-là, de mieux se comprendre aussi, puis de voir justement où est-ce qu'ils peuvent se situer s'ils sentent qu'ils ont finalement une vocation et un potentiel volet marchand à développer.
En fait, oui, je trouve ça hyper stimulant de rencontrer des gens qui ont des projets, que ce soit des projets entrepreneuriaux, des projets communautaires, pour échanger avec eux, pour savoir, pour être certain qu'on ne met pas à risque l'âme, la mission première d'une organisation en développant une activité marchande. Pour moi, c'est super important. Et je pense que c'est très excitant de voir comment les organisations, les entreprises, même les entreprises qui, au départ, sont des entreprises privées à but lucratif, compte tenu qu'ils ont à cœur de développer ou d'avoir un impact social dans leur entreprise, peuvent tranquillement réaliser que peut-être ils seraient aussi confortables, sinon plus, à être une entreprise d'économie sociale qu'une entreprise à but lucratif ou qu'un organisme communautaire.
Oui, dernièrement, on voit de plus en plus d'exemples justement de Inc., enfin en tout cas d'entreprises privées qui se développent finalement nouvellement dans un volet d'économie sociale.
Effectivement. En fait, l'avantage qu'on a comme société lorsque on développe des entreprises d'économie sociale versus une entreprise Inc., lorsque la mission de l'organisation est clairement sociale, c'est la pérennité, en fait. C'est de dire que si j'ai un promoteur comme toi, Christian, qui dit « Moi, j'ai à cœur que mon entreprise ait une mission sociale », c'est bien, on va développer ton entreprise, tu vas développer ton entreprise avec cette vision-là, mais éventuellement, ton entreprise va grandir, va grossir, elle va aller chercher des investisseurs qui, eux, n'ont pas nécessairement bien, qui trouvent ça très bien que tu as un impact social. Ils n'ont pas nécessairement à cœur la même intensité d'impact social et ils vont t'amener vers une rentabilité financière qui va peut-être t'éloigner de ta mission sociale. Lorsque tu es une entreprise d'économie sociale, c'est que tu as en fait, c'est un gardien de l'impact social. Et une chose que je dirais peut-être par critique du milieu de l'économie sociale, c'est souvent que ces organisations-là voient mal de pouvoir viser une rentabilité économique, avoir des salaires qui sont des salaires importants. Et on dit toujours, ben, quand tu fais le choix de l'économie sociale, tu fais le choix d'avoir un petit salaire, de travailler. Mais moi, je pense qu'il faut que nos jeunes, on puisse leur dire qu'ils peuvent avoir des salaires très décents. On pourrait avoir une grande compagnie d'ingénierie québécoise qui fait nos ponts, qui seraient des entreprises d'économie sociale avec des niveaux salariaux tout à fait décents, intéressants. En fait, c'est comme si on n'a pas encore regardé, on est encore encarcané dans notre... si on a une mission sociale, il faut être pauvre, puis il faut être, modeste.
Ça me rappelle justement Réseau Coop lance un parcours aussi. Comme vous, vous avez aussi un cours en lancement d'entreprise en économie sociale. Justement, on a des ingénieurs qui viennent de lancer une coop qui s'appelle BEC, nouvellement, et qui justement, en fait, eux, leur intérêt, je pense qu'ils ont compris qu'effectivement, ils pouvaient avoir un salaire complètement décent, parce que c'est des ingénieurs qui ont décidé de partir ensemble une coopérative. Mais leur souci premier, c'était le bonheur au travail. Et apparemment, les entreprises d'économie sociale ont un niveau de bonheur et au sein même de leur institution qui est beaucoup plus élevé que les entreprises traditionnelles. Puis il y a aussi, et tu me diras, peut-être toi tu connais mieux les chiffres, mais il me semble que les entreprises d'économie sociale sont deux fois plus pérennes qu'une entreprise traditionnelle.
Effectivement, en fait, une entreprise d'économie sociale, son pourcentage de réussite et de pérennité, c'est à 83% versus 43% pour les entreprises privées à but lucratif. Pourquoi? C'est beaucoup grâce à la question de la collaboration puis du collectif. C'est-à-dire, l'autre élément, c'est que tu réponds à un réel besoin. En fait, c'est la question que tu disais tantôt par rapport à l'impact social. Si tu réponds à un réel besoin, tes chances de survie sont effectivement beaucoup plus grandes que si tu fais juste créer un besoin ou un gadget ou quelque chose qui peut avoir une durée de vie quand même restreinte. Mais je dirais aussi que c'est beaucoup dans la gouvernance collective, dans le fait que tu dois collaborer avec d'autres organisations, que tu dois échanger pour être sûr de comment je peux avoir des collaborations du milieu, d'institutions publiques, qui fait en sorte que tu deviens beaucoup plus enraciné dans ta communauté. Ce que les entreprises privées à but lucratif tentent de faire, mais peut-être avec un peu plus de difficultés, parce que c'est moins facile de s'ancrer dans la communauté quand ton objectif est finalement de faire des profits. Mm-hmm. Je veux juste préciser que je ne dis pas que les entreprises à but lucratif sont tous... en fait, n'ont pas nécessairement l'intérêt de faire de l'impact social. Je pense qu'au Québec, on a actuellement... peut-être même pas juste au Québec, on a un exercice à faire de comment on peut différencier les entreprises à but lucratif qui ont réellement dans leur mission, dans leur objet, l'impact social, des entreprises à but lucratif qui n'ont pas nécessairement ça comme objectif, bien qu'ils ont quand même un impact social qui est peut-être très bien. Cette nuance-là est difficile à faire. On commence à la faire au Canada avec les B Corp, qui est une genre de certification, un peu comme on a fait dans l'environnement avec les certifications LEED. Je pense que c'est encore très rudimentaire, puis c'est un peu n'importe quoi, mais l'idée, c'est qu'on puisse tranquillement dire comment on va faire pour différencier. C'est quoi une entreprise privée à but lucratif à impact social, donc une entreprise sociale, puis comment on la différencie d'une entreprise à but lucratif. Alors, je pense que les trois acteurs, je dirais surtout les entreprises d'économie sociale et les entreprises à but lucratif qui ont un souci ou une mission d'impact social sont des entreprises qui vont pouvoir travailler ensemble éventuellement pour aller un peu plus loin en termes d'impact social.
Mmh. Puis on ressent probablement un besoin et une nécessité dans notre monde d'aujourd'hui avec les changements et les enjeux actuels d'être plus centré vers un impact social, voire même environnemental qui inclut beaucoup d'aspects.
Absolument, en fait. Je dirais toujours que je fais toujours la nuance entre l'économie sociale et l'entreprise à but lucratif. On reste avec la même nuance, le même danger, que l'entreprise change, que son impact soit moins, soit pas périn par rapport à la pression des actionnaires, par exemple, et tout. Donc, pour moi, celui qui me donne une plus grande assurance d'impact social à pérennité, c'est probablement l'entreprise d'économie sociale, pour sûr. Par contre, ça ne veut pas dire que les entreprises à but lucratif, le fait qu'il y a une tendance à se poser la question puis à travailler à avoir un impact social positif, c'est une excellente nouvelle. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on veut continuer à encourager. Ces entreprises qui, oui, sont basées sur un actionnariat, mais qui se sont données comme mission d'avoir un impact positif au niveau social, c'est génial. Mm-hmm. C'est ce qu'on veut, on en veut plus. Au niveau du laboratoire d'innovation sociale, d'ailleurs, on les accueille, on veut rencontrer ces entreprises. Mais le type d'organisation, ce n'est pas une religion. L'économie sociale, ce n'est pas une religion, ni l'entreprise privée, ce n'est pas une religion. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi le meilleur moyen pour le faire? Mm-hmm. C'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question quand on veut se lancer en entreprise.
Découvrez des faire ensemble, collaboratifs, humains et conscients. Pour encourager ce podcast, laissez-nous quelques étoiles et commentaires sur votre iTunes ou votre système de balado-diffusion. Il vous est également possible de partager ce podcast au travers de vos réseaux sociaux. Ben oui, justement, j'allais te poser la question. Qu'est-ce que vous faites dans le laboratoire d'innovation sociale?
En fait, au laboratoire d'innovation sociale, notre principal objectif, c'est vraiment de réunir une communauté de personnes, d'entrepreneurs, même d'acteurs du milieu qui se soucient de comment on peut améliorer l'impact social, comment on peut faire mieux dans notre communauté localement, des actions concrètes qui vont répondre à des besoins puis qui vont faire en sorte que, en fait, tu parlais du niveau de bonheur tantôt, que le niveau de bonheur qu'on a à faire notre travail, à faire ces projets-là est beaucoup plus élevé. Il n'y a aucune dissonance cognitive par rapport à lorsqu'on fait un projet entrepreneurial, privé, puis qu'on sait qu'on va peut-être nuire à quelque part à d'autres personnes.
Mmh, ouais.
Alors, le lab, c'est un peu ça. C'est vraiment de dire comment on peut réunir les gens qui ont le goût de faire plus? Mm-hmm. Comment on peut les accompagner en les mettant en contact avec toutes sortes de partenaires qui peuvent les aider à propulser leur projet entrepreneurial à impact social un peu plus? Et surtout les aider à collaborer avec d'autres entreprises. Quand tu es un entrepreneur, je suis un entrepreneur dans un autre projet, et quand on est entrepreneur, on a toujours un genre de dichotomie dans notre petit cerveau. C'est comme, un, il faut que je garde mon idée parce que sinon quelqu'un d'autre va la prendre. Et deux, je suis une entreprise d'économie sociale, donc je devrais partager mon idée pour aller voir s'il y a des collaborations que je peux aller chercher. Mm-hmm. Et ça reste une petite valse dans notre tête parce qu'on se dit, ouais, mais si je partage trop, ben quelqu'un d'autre va le faire à ma place. Et on reste des entrepreneurs quand même. Mm-hmm. Alors, c'est un exercice d'équilibre, je dirais, entre le fait de l'intérêt de collaborer avec d'autres. Donc, le lab, ce qu'on veut faire, c'est de faire en sorte que ce soit rentable pour l'entrepreneur de collaborer. C'est-à-dire que de faire en sorte que lorsqu'il collabore, lorsqu'il s'ouvre, lorsqu'il parle de son idée, c'est juste son idée va aller plus loin, plus vite, avec plus de succès. C'est ce qu'on veut. Et puis, pour les partenaires qui accompagnent des entreprises, ce qui est le fun, c'est que, dans le fond, ils se retrouvent avec un groupe d'entrepreneurs qui vont travailler ensemble, qui vont collaborer. Ça évite de rencontrer un à un des projets qui sont très, très loin d'accoucher, si on peut dire. Mm-hmm. Alors, c'est peut-être plus... Il y a une genre d'efficience, je dirais, par rapport à intervenir dans des laboratoires d'innovation sociale auprès d'entrepreneurs qui sont vraiment après réfléchir puis développer leur projet. Mm-hmm.
Moi, j'aimerais vraiment que tu nous partages justement ta vision de l'innovation sociale.
En fait, ma vision de l'innovation sociale, c'est vraiment... En fait, c'est basé sur le fait de... je parlais de la valse tout à l'heure, mais il y a une autre valse qui est celle de l'écoute versus l'action. Mm-hmm. Alors... c'est de dire que l'innovation sociale, c'est de dire, c'est quelqu'un ou c'est un entrepreneur qui a été capable de dire, j'ai le goût de passer à l'action puis d'avoir un impact positif dans mon milieu, qui est tellement fort, tellement important, que je suis prête à écouter puis à faire de la recherche sur ce qui se fait ailleurs et ça n'affecte pas mon ego. Mm-hmm. En fait, c'est-à-dire, ça ne dit pas, ben là, j'ai moi la meilleure idée du siècle puis j'aime mieux me fermer les yeux sur les autres qui ont fait les mêmes projets. Parce que, dans le fond, je veux démontrer que je suis un innovateur.
Le meilleur. Et voilà que j'excelle dans...
Exact. Okay. Fait que l'innovation sociale, c'est vraiment ça, c'est d'être prêt à confronter nos idées, d'être prêt à vraiment écouter tout ce qui s'est fait ailleurs dans le même sens, avec le même objectif, de bâtir là-dessus pour vraiment avoir un meilleur... un meilleur impact, en fait. Mais l'innovation sociale, c'est aussi, c'est un mouvement qui vise à réunir les gens qui sont vraiment, puis nos jeunes entrepreneurs sont très là-dedans et je trouve ça extraordinaire. Ils veulent vraiment faire une différence. Ils veulent pas juste, je pense qu'avant, les entrepreneurs étaient beaucoup dans « je veux réussir », puis réussir, ça veut dire faire des sous. Mmh. Aujourd'hui, réussir, ça veut dire être valorisé par l'impact que j'ai dans mon entreprise. Mm-hmm. Et les jeunes sont très, très animés par ça. Et ça, je trouve ça excitant. Et je pense que le fait de réunir ces jeunes entrepreneurs-là avec des gens, des institutions, que ce soit de la santé, des services sociaux, des villes, des municipalités qui sont aux prises avec des problèmes sociaux dans leur milieu auxquels ils veulent agir, de réunir ces gens-là ensemble, c'est extraordinaire. C'est vraiment un catalyseur et un propulseur d'impact social. Mm-hmm. En fait, on est au début, on fait nos petits pas de bébé, on est encore en couche. Mm-hmm. Mais je pense que le fait de partir ce lab à partir vraiment d'un milieu local, ça nous assure quand même de toujours être, en tout cas essayer d'être dans l'action, bien qu'on souhaite aussi aller chercher la collaboration des milieux universitaires, d'enseignement supérieur et cégep, pour qu'ils nous amènent une réflexion plus large, plus songée, sans toutefois perdre de vue qu'on veut être dans l'action à court terme. Mmh.
C'est tout un changement de paradigme, en fait, que vous offrez avec le lab.
Mais en fait, je pense que oui, mais c'est un mouvement qui est international actuellement, puis j'en suis très, très ravie parce que, dans le fond, l'innovation sociale, certaines gens, en fait, certains vont dire « Ah, on parle d'innovation sociale tout le temps, on n'arrête pas de dire innovation sociale, innovation sociale. » Mais c'est une excellente nouvelle. C'est qu'avant, on n'arrêtait pas de dire « Il faut faire du cash, les dragons, les machins, c'est tout comment on peut faire plus d'argent, comment on peut vendre des choses que personne n'a besoin. » Alors, l'idée qu'on puisse parler d'innovation sociale partout, que ça devienne la nouvelle norme, le nouveau mainstream, je trouve que c'est génial. Alors, le défi qu'on a ici à Laval, c'est que comme on n'est pas reconnu pour avoir une population qui pense à impact social, je pense qu'on est à peu près 400 000 habitants à Laval. Je suis convaincue qu'il y a beaucoup de personnes qui demeurent à Laval, mais qui ont ce souci-là. C'est juste qu'ils n'ont pas de lieu pour se réunir, puis pour parler ensemble, puis pour travailler sur des projets à impact social.
Donc, si je comprends bien, le Lab d'innovation sociale est ce lieu-là où les gens qui auraient envie de contribuer pourraient venir justement fournir du jus de cerveau, comme on dit ici au tiers-lieu.
Oui, effectivement. Je pense que c'est mon dada à moi, parce que c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse, à terme, donner naissance à des projets à impact social, c'est-à-dire des vrais projets collectifs d'entreprises. Ça peut être des entreprises d'économie sociale, mais ça peut aussi être des groupes de citoyens qui se réunissent pour avoir une action ou un impact, créer un marché dans leur milieu. Je pense que, puis tu parlais de bonheur tantôt, je pense que pour moi, l'innovation sociale, à n'importe quel moment où on fait des événements sur l'innovation sociale, sur l'impact social, sur l'entrepreneuriat, sur la collaboration, c'est toujours des moments de bonheur. C'est toujours des moments où les gens sont heureux d'être ensemble, puis de travailler ensemble. Alors, puis c'est comme on parle des déterminants de la santé de façon plus générale. On dit toujours que, justement, d'être dans des milieux où on parle à nos voisins, où on travaille avec eux, ça nous rend beaucoup plus heureux, puis beaucoup plus en santé.
Moi, j'aimerais continuer avec toi parce que tantôt, tu as nommé que tu étais entrepreneur. Est-ce que tu veux nous parler de ton projet, justement, qui est un exemple, finalement, de ce que tu nous partages aujourd'hui?
Oui, en fait, dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de travailler en développement économique, beaucoup, et dans des quartiers, par exemple, de Montréal, Centre-Sud, Plateau-Mont-Royal, où il y a une effervescence incroyable, en fait, même une gentrification, une effervescence entrepreneuriale, même une pression sur l'augmentation des coûts de loyer, que ce soit pour des artistes, des créateurs, des entrepreneurs, des résidents. Et ce que ça faisait, c'est que ça me rendait un peu inquiète et triste de voir que ce qui a créer la richesse, on peut dire, ou le sentiment de bien-être, de vivre dans le plateau Mont-Royal, par exemple, était après s'effriter, comme si on avait un immense parc à côté de chez nous qui était magnifique, les feuilles, les fleurs, la beauté, et que tranquillement, qui nous avait motivés à venir déménager à cet endroit, et que tranquillement, on empiétait sur le parc, puis on bâtissait de plus en plus, puis éventuellement, on n'aurait plus de parc. Alors, la logique de ma carrière depuis cette époque-là, ça a été beaucoup de dire comment on peut identifier ce qui est à risque, ce qui a de la valeur pour nous, puis ce qui est à risque. Donc, au départ, avec l'équipe de la CEDEC Centre-Sud Plateau-Mont-Royal que je dirigeais, on a identifié que ce qui est à risque, c'est l'exode des artistes qui s'étaient établis dans des lieux très peu chers d'ateliers d'artistes dans le Centre-Sud et dans le Plateau. Et on a travaillé à des projets dont la mise sur pied la fondation d'une organisation qui s'appelle Atelier Créatif, qui visait en fait à acquérir des espaces pour les ateliers d'artistes pour qu'ils soient perpétuellement abordables, pour qu'on puisse garder des artistes dans les quartiers centraux de Montréal. Suite à cette expérience qui était assez positive, je me suis aussi posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec nos familles, nos gens de la classe moyenne qui, sur le plateau, dans le centre-ville, partout, vont avoir de moins en moins les moyens d'acheter une propriété dans ces lieux-là. Égoïstement, moi, j'adore voir des enfants, des familles dans la rue quand je marche, quand je me promène. J'adore ça. J'adore être dans un quartier où il y a une vie mixte. Et je me suis dit, cette vie mixte-là va partir parce que, dans le fond, les jeunes n'auront pas les moyens, quand ils sortent de l'université, ils ont un enfant ou deux enfants, d'acheter une propriété sur Montréal. Et éventuellement, on va se retrouver comme Vancouver ou Toronto ou Silicon Valley, à la limite, où les gens sont obligés de vivre complètement en banlieue puis au lieu de vivre dans le centre-ville. Mm-hmm. Alors, on a développé, suite à ça, en fait, j'ai justement, par rapport à peut-être à l'innovation sociale, je me suis mis beaucoup à l'écoute, en fait. J'ai voyagé un peu pour entendre les gens qui agissaient sur ce genre de problématiques-là. Et j'ai découvert une pratique qui existe aux États-Unis qui s'appelle les fiducies foncières communautaires, Community Land Trust, qui est une approche où on dit, on va permettre aux gens qui n'ont pas nécessairement la mise de fonds pour acheter une propriété ou qui n'ont pas nécessairement l'argent pour acheter une propriété dans le marché régulier au prix que, du marché, on va les aider à acquérir une propriété dans la mesure où lorsqu'ils vont revendre leur propriété, on va partager la plus-value, c'est-à-dire que la croissance de la valeur marchande de leur propriété, le profit, si on peut dire, entre eux et la collectivité pour qu'on puisse garder cette propriété-là perpétuellement abordable pour le prochain acheteur, donc de le passer au suivant. Cette logique m'a vraiment plu. Et là, j'ai passé quelques années à voir, mais pourquoi on ne l'a pas fait au Québec encore? Mm-hmm. Comment ça fait que ça n'existe pas?
Oui, il n'y avait pas d'autres projets égal à celui-ci.
Non, il n'y a pas de projet du tout dans cet esprit. Et c'est là qu'on a décidé de lancer Vivacité. Vivacité comme les plantes vivaces, en fait. Vivacité, société immobilière solidaire. Mm. Pourquoi les plantes vivaces? C'est qu'au lieu de donner un peu de sous à Joe pour acheter une propriété, puis après ça, lui, il vend la propriété, puis la propriété n'est plus abordable pour le prochain acheteur. Mmh. On dit pourquoi on n'investirait pas dans cette propriété pour qu'elle soit toujours abordable pour le prochain acheteur. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça Vivacité. Alors, je suis excitée parce que, dans le fond, c'est un projet qui devrait voir le jour. C'est long quand même, des projets comme ça, parce que c'est des projets qui n'existent pas encore au Québec ni au Canada. Mais je suis confiante qu'on va pouvoir réaliser ce projet dans les prochains mois pour enfin permettre aux gens d'acheter une propriété dans un esprit où on leur offre 20% pour leur mise de fonds. Ils n'ont pas besoin de mise de fonds. On leur offre et ils vont chercher une hypothèque pour le 80% de la valeur marchande. Et ça fait en sorte qu'au lieu de payer un loyer, ils vont payer une hypothèque qui fait en sorte que lorsqu'ils vont revendre la propriété, ils vont avoir un petit actif pour s'acheter une propriété dans le marché régulier ou pour acheter une plus grande propriété dans un marché de propriété perpétuellement abordable de Vivacité.
Mm-hmm. Est-ce que tu veux nous parler justement du premier projet avec lequel vous allez commencer?
En fait, oui. En fait, c'est le projet. Le premier projet, en fait... Je dirais que Vivacité, c'est avant tout un projet, effectivement, d'impact social, mais de qualité de vie, de bonheur, en fait. Ce qu'on veut, c'est que les gens, lorsqu'ils vont acheter une propriété Vivacité, ce soit des propriétés, beaucoup de cohabitants, d'espaces où les gens partagent des espaces communs, pas juste un projet de tour de condo. C'est un grand défi, en fait. C'est comment on peut travailler avec les gens, peut-être des fois dans l'architecture participative ou dans l'identification avec les acheteurs de quel genre de choses ils aimeraient partager. Est-ce que c'est un atelier, une cuisine ou une salle de séjour? Chacun a leur propre unité à eux, mais ça fait en sorte qu'ils ont quand même une vie collective, comme un peu comme un coworking, en fait, dans lequel dans lequel on peut avoir une vie intéressante. Alors, c'est l'objectif. Un des premiers projets, c'est dans le cadre de Lac Mégantic, la tragédie à Lac Mégantic qui a eu lieu. On a dû détruire au complet le centre-ville. Et on nous a invités à aller rencontrer les gens de Lac Mégantic pour dire comment un projet Vivacité pourrait pas contribuer à la reconstruction du centre-ville dans une approche justement de cohabitation sécurisante, collective, avec un peu plus de bonheur, en fait, que juste aller vivre tout seul. Alors, c'est un peu ça qui est en développement. On vise à faire notre premier projet Vivacité. Ce serait un projet LEED, un projet au niveau environnemental qui est très éco-responsable. Un projet de cohabitat, dans lequel les gens vont pouvoir partager des espaces communs, avoir une vie collective intéressante, et un projet où les gens, on va pouvoir aller viser des personnes qui sont dans les revenus médians, qui gagnent un peu moins cher, qui n'ont pas nécessairement la mise de fonds pour acheter une propriété et qui acceptent que lorsqu'ils vont revendre la propriété, ils vont garder juste une partie du profit et non 100 %.
Mm-hmm. Super. Et merci beaucoup, Louis. C'est vraiment passionnant. Puis je trouve que c'est des projets qui sont vraiment inspirants en plus de ça. Donc, merci de contribuer à ce changement de paradigme parce que ça prend des gens aussi qui ont vraiment à cœur, justement, ces enjeux-là, finalement.
Merci, Christian. J'ai hâte que tu changes ton entreprise pour une entreprise d'économie sociale.
J'y réfléchis, justement. Okay. Donc, si jamais tu avais une seule chose à offrir aux entrepreneurs qui nous écoutent ou aux gens qui nous écoutent, ça serait quoi?
En fait, ce que je dirais, la plus grande, en tout cas, l'élément qui m'a rendu le plus heureuse, ça a été beaucoup la transparence et la collaboration, c'est-à-dire d'avoir une ouverture, de jamais, en fait, la chose à ne pas, je dirais, sacrifier peut-être, qui est toujours un défi, mais c'est la transparence, l'ouverture et d'avoir confiance que même si on donne tous nos secrets, que dans le fond, la richesse du travail qu'on va faire va juste être plus grande si on partage toute l'information avec les gens qui nous entourent.
Ah ben super, merci beaucoup.
Ça fait plaisir, merci.
Retrouvez le site du Pôle régional d'économie sociale de Laval sur economiesociallaval.com. Retrouvez le projet de Louise, Société immobilière solidaire, sur son site vivacitésolidaire.org. Je vous invite à vous inscrire à ce podcast au travers de votre système de balado-diffusion préféré. Si vous avez des questions ou des sujets qui vous intéressent, vous pouvez m'écrire à jouer@jeudutaomtl.com. Pour le reste, je vous laisse partager cette interview sur vos réseaux. Ce nouvel épisode est offert par Christian Wirth, formation en intelligence collective et Jeux du Tao.